Chapitre 10. Nous dormîmes relativement bien, même si tout le monde souffrait de migraines et que ma terrible toux était revenue. À mon avis, aucun de nous ne rêva que les Allemands mitraillaient nos tentes avec leurs Schmeisser. Nous étions beaucoup trop fatigués pour ça. Quand je me réveillais dans la nuit froide, je tournais la valve pour inhaler un peu d'oxygène qui me réchauffait les pieds et les doigts, puis je me rendormais. Les autres faisaient de même, sauf Passang, qui, me sembla-t-il, dormit toute la nuit sans air anglais. Je ne me réveillais complètement qu'à 7 heures du matin. Passang et Reggie réchauffaient du café et quelque chose à manger sur le réchaud Una juste à l'entrée de la tente. La matinée était ensoleillée, l'air froid mais calme. Le ciel, au-dessus des arêtes nord et nord-est, était d'un bleu sublime. « Où sont J.C. et le diacre ?» demandai-je inquiet.
« Ils sont partis monter la garde près de l'échelle, vers 4h30 ce matin, » répondit Reggie. « Juste avant le lever du jour.
« Je vais aller les voir, avant de revenir prendre un café, » dis-je entre deux quintes de toux. J'étais en train de fixer mes crampons.
« Ah !» dit Reggie. Le diacre nous a demandé de porter la parka de Finch par-dessus nos autres vêtements. Si vous voulez vraiment mettre l'anorak Shackleton, il faut le glisser en dessous. Quant au pantalon de duvet que je vous ai fait, il faut le mettre sur l'envers et toujours garder votre capuche de duvet.
Je m'aperçus alors que Passang et elle étaient vêtues de cette façon et avaient leur capuche relevée.
Pourquoi ? Demandai-je.
« D'après le diacre, nous sommes à portée de tir de 3 fusils, » répondit Passang. « Surtout de son Lee-Enfield à lunettes. Le tissu blanc des parkas est plus difficile à distinguer sur la neige du col nord et de la première partie de l'arête nord que nos vestes Shackleton grises.
Nous passions donc à la tenue de camouflage. Je me demandais quelle autre surprise nous réservait cette journée.
« Tenez, » me dit Reggie. 2 thermos de café modérément chaud. Vous partagerez avec Jean-Claude et Richard.
Les thermos fourrés dans les grandes poches de ma veste de duvet, mon long piolet dans une main et le pistolet Very dans l'autre, je traversai le col nord en vitesse jusqu'à la corniche de glace, en veillant à garder la tête baissée. Je me sentais un peu idiot de me dandiner de cette façon, mais l'idée d'être la cible d'un tireur me contractait les testicules. J.C. et le diacre n'étaient pas sur la corniche, mais couchés à plat ventre derrière un muret de glace et de neige sur le col nord lui-même, à environ 12 mètres du haut de l'échelle. Je m'installai à côté d'eux et leur tendis les thermos.
« Elles sont les bienvenues. »«
Merci, Jake, » dit le diacre.
Il attrapa l'une des bouteilles qu'il cala dans la neige, puis il reprit ses jumelles à 2 mains.
« J'avais oublié d'apporter les miennes. »
« Ils s'agitent depuis ce matin, »
dit J.C. en me prêtant les siennes.
« Ils enterrent les morts et dispersent les cendres des tentes. »«
Ils enterrent les... »
commençai-je en regardant par les jumelles. À l'emplacement du camp 3, en bas, 8 hommes en parka blanche, le visage dissimulé sous des écharpes et des foulards, déplaçaient les derniers corps de nos Sherpas assassinés. D'autres pelletaient les cendres et les restes calcinés du campement qu'ils entassaient sur de grandes bâches.
« Je donnerais cher pour avoir ma Lee-Enfield, » murmura le diacre.
« Pourquoi est-ce qu'ils... »
« Ils ignorent si une autre expédition britannique ne viendra pas dans l'Everest l'année prochaine ou dans 2 ans, » dit le diacre, baissant enfin ses jumelles et dévissant le bouchon de sa thermos. Jean-Claude buvait déjà son café fumant et il me tendit sa tasse pour que nous partagions.
« Ils ne veulent pas laisser de traces du massacre. »
Les Allemands sont en général très bons pour couvrir leurs exactions.
« Où est-ce qu'ils les enterrent ?»
chuchotai-je.
J'essayais de me rappeler le nom de tous les Sherpas.
Probablement dans la profonde crevasse au bord de la moraine sur le côté ouest, derrière les pinacles de glace là-bas, dit le diacre.
Il est bon ce café.
Quand ils auront fini d'enterrer et de disperser les preuves, ils se lanceront à nos trousses.
Très certainement, acquiesça le diacre.
Je me démanchais le cou pour regarder le ciel bleu et l'air transparent et immobile.
La face nord de l'Everest se dressait au-dessus de nous, telle une muraille de carton-pâte.
Nous avons perdu l'avantage que nous donnaient le vent et les nuages. J'avais exprimé tout haut ma pensée.
« Oui, c'est vrai, » dit le diacre.
« Mais c'est une journée idéale pour tenter le sommet. »
Je n'étais pas sûr qu'il plaisantât, mais ça ne m'amusait pas.
« Ils ont nos deux fusils de chasse plus votre carabine, » repris-je.
« Et vous nous avez dit que votre Lee Enfield modifié avait une portée utile de 500 mètres. »
« Mais qu'elle pouvait atteindre les 900 mètres. »
« Oui.
Eh bien, le col nord n'est qu'à environ 300 mètres d'eux, » dis-je avec colère.
« C'est-à-dire à portée de fusil.
Et nous le serons aussi si nous escaladons l'arête nord. »
Le diacre hocha la tête.
« Mais ils n'ont pas le bon angle de tir, Jake. »
« À mon avis, l'Allemand qui détient mon fusil se trouve sur le glacier sous le camp 3, au point le plus haut du glacier, pour essayer d'avoir un point de mire dégagé.
Mais le col nord est juste assez haut pour qu'il ne nous voie pas, surtout si nous nous tenons à l'écart du rebord.
Tant que nous ne passons pas la tête au-dessus de cette ligne, je ne crois pas qu'ils tenteront de tirer.
Mais est-ce que ce n'est pas précisément ce qu'on est en train de faire ?
Demandai-je d'un ton légèrement surexcité,
dresser la tête comme des canards au stand de tir d'une fête foraine.
Ne vont-ils pas apercevoir un reflet de soleil sur les lentilles de nos jumelles ?
Le diacre pointa le doigt vers l'est.
Pas tout de suite, Jake.
Le soleil est encore en train de passer au-dessus de l'arête nord-est et du sommet, derrière nous et à droite. Le soir, nous devrions faire très attention au moment et au lieu où nous utiliserions les jumelles. Quant à voir nos têtes, vous avez peut-être remarqué les petits tunnels de neige et de glace que Jean-Claude et moi avons construits. Ça réduit notre champ de vision, mais grâce à eux, nous restons dans l'ombre et demeurons plus ou moins invisibles à quiconque ne regarde pas pile dans cette direction.
Vous avez l'air tellement sûr de vous tous les deux,
rétorquai-je.
Absolument pas, dit J.C. Mais je crois que le diacre a raison sur ce point. Nous ne serons pas des cibles pour leurs fusils, du moins pas avant de commencer à remonter le champ de neige sur l'arête nord pour aller au camp 5.
Pourquoi ne l'avons-nous pas fait cette nuit si c'est dangereux de le tenter en plein jour, exigeai-je de savoir.
Parce que nous voulons éliminer quelques Allemands avant d'abandonner le col nord,
répondit le diacre de sa voix sans timbre.
Je faillis éclater de rire.
Comment ? En utilisant les deux cartouches du Luger volé contre 8 ou 10 Allemands ?
En leur tirant dessus avec nos pistolets de détresse lorsqu'ils monteront cette échelle que nous leur avons si obligeamment laissée ?
Pas tout à fait, dit le diacre.
Comment allons-nous procéder alors pour éliminer quelques Allemands,
hein ? En leur lançant des cailloux ?
Vous vous rapprochez.
Soudain, une pensée me contracta l'estomac.
Pendant que vous les surveillez par votre petit tunnel, comment savez-vous que les Fritz ne sont pas en train de tailler des marches dans le mur de glace à quelques centaines de mètres à l'est?
L'image s'imposa avec clarté dans mon esprit.
Nous les entendrions, dit J.C. En plus, ils sont trop occupés à faire disparaître les preuves de leur crime. Transporter et enterrer des corps, même avec des crevasses à disposition, est un travail difficile à 6000 mètres d'altitude.
Et il leur faut aussi dissimuler le massacre au camp de base, sans parler des décombres au camp 1 et 2.
Nous pensons, Richard et moi, qu'ils en auront pour la matinée et une partie de l'après-midi.
Mais il y a tout de même un tireur qui observe et attend qu'on se montre, dis-je.
Oui, admit le diacre.
Je le regardais droit dans les yeux.
Si vous étiez ce tireur, qu'auriez-vous fait ?
Où vous seriez-vous posté ?
Le diacre sortit sa pipe de sa poche et la coinça entre ses dents blanches. Il ne l'alluma pas. Je ne l'avais jamais vu fumer sa pipe à haute altitude.
J'aurais commencé à gravir la pente du Changtse au milieu de la nuit, répondit-il tranquillement. J'aurais trouvé un poste de tir caché au sommet ou à côté, à 7500 mètres environ. Au lever du jour, nous aurions tous été à sa portée et dans sa ligne de mire au col nord. Mon Lee Enfield a un chargeur de 10 cartouches.
je nous aurais tous éliminés sans même avoir besoin d'en changer. Je crus que j'allais vomir. Je redressai brusquement la tête et scrutai les hautes pentes enneigées du Changtse qui nous dominait à l'ouest. « Comment savez-vous qu'il n'est pas là-bas, en ce moment même, en train de nous viser ?» demandai-je.
« Parce que nous sommes ici depuis 4h30 du matin, à surveiller le Changtse, et que nous n'avons vu aucune lumière, »
expliqua J.C. « Et même les super-héros de Herr Hitler ne peuvent pas escalader cette dangereuse pente dans le noir.
Mais depuis l'aube, nous surveillons, » insista J.C.
« Rien. » Nous avons vu l'un des Boches, le grand portant la carabine à lunettes de Richard, disparaître entre les pénitents dans la direction de la piste du glacier. Les autres se sont seulement occupés de débarrasser les corps de nos amis et de balayer la cendre et les vestiges de nos tentes et de nos caisses.
Je secouais la tête.
N'ayant jamais été soldat, je n'y entendais rien à la tactique, encore moins à la stratégie. Mais jamais je n'avais eu aussi peur de ma vie, pas même lorsque j'avais effectué les manœuvres les plus risquées sur les montagnes ou sur la glace. Comme s'il lisait dans mes pensées ou sur mon visage, le diacre posa une fois encore la main sur mon épaule.
« Nous avons un plan, Jake. Je vous le promets. N'oubliez pas que ce sont des Allemands, des gens arrogants. Ils viendront droit sur nous à un moment de la journée, en utilisant cette échelle que nous leur avons laissée avec la quasi-certitude que nous n'avons pas d'armes à leur opposer. C'est là que nous en tuerons le plus possible. Après seulement, nous commencerons notre retraite tactique en haut de la montagne. Cette fois, je m'esclaffais franchement. Assez fort peut-être pour être entendu du camp 3 où des hommes en parka blanche disposaient des cadavres de nos compagnons. Et ce n'était même pas un rire nerveux.
« Quoi ?» demanda Jean-Claude.
Je réprimais mon rire, mais souriais toujours.
Ah, seul mon ami Richard Davis Deacon, comte de Watersbury, qu'il le veuille ou non, pourrait appeler l'escalade du sommet de l'Everest une retraite tactique.